nous allons consacrer une heure exceptionnelle à un musicien qui ne l'était pas moins, lié à la naissance du psychédélisme. Son histoire est une des plus ahurissantes d'un mouvement qui a nourri d'autres trajets très fous, mais rarement autant que le sien. You're gonna miss me, le cri d'indépendance d'un homme alors très jeune, 19 ans à peine, en 1966. Oui, je vais me tirer d'ici, je vais fourrer deux bouteilles de whisky dans mon sac, je vais voir des rivières, des montagnes dont t'as pas idée, et oh oui, tu vas sentir un grand vide, je vais te manquer, mais ce sera trop tard, je vais plus jamais revenir. Un des thèmes éternels du blues, celui du vagabond qui part un bon matin et abandonne la femme avec qui il a partagé, je sais pas, une cabane dans la forêt, une chambre d'hôtel miteux, un abri pouilleux, enfin ce que vous voulez. Ce vagabond-là était un Texan qui avait pour nom Rocky Erickson. On vient d'apprendre sa mort à l'âge de 71 ans. Son nom est celui du groupe qu'il avait créé dans la ville de Austin au Texas, les 13th Floor Elevators, des ascenseurs du 13e étage. Je glisserai deux mots sur le choix de cet étrange nom. Ne vous diront peut-être rien. Eh bien, sachez pour commencer qu'en 1966, ces musiciens sont entrés dans l'histoire pour avoir été les premiers à utiliser l'adjectif psychédélique afin de désigner leur musique. Ils ont en effet nommé leur premier album The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, les sons psychédéliques des ascenseurs du 13e étage. Un terme auquel n'avaient jamais recouru nommément les fondateurs du genre, je pense à Grateful Dead, Jefferson Airplane et encore moins les Doors. Au fait, en passant, pourquoi cette histoire de 13e étage? Eh bien parce que je vous jure que c'est absolument authentique. En ce temps-là, aux États-Unis, en tout cas au Texas, certains constructeurs d'ascenseurs omettaient, par superstition, de désigner sur le tableau de commande le 13e étage. Si bien que vous passiez directement du 12e au 14e étage, qui était, en fait, si vous avez bien suivi, le 13e, mais surtout, il fallait pas le dire. Ça vous paraît fou? Eh bien, pas autant que vous paraîtra l'histoire de Rocky Erickson. Ce garçon passionné de musique, sa mère était une chanteuse amateur, chantait des airs d'opéra, il avait créé son premier groupe à 15 ans. Il jouait du piano piano, de la guitare, il composait, il chantait. Alors vous l'avez entendu comme ça à l'oreille, rien ne distinguait en apparence le groupe de Rocky Erickson d'une pléthore d'autres groupes de rock dits garage qui essaimaient un peu partout parmi les banlieues des États-Unis. Des gamins souvent à peine pubères, armés d'instruments et de matériel très bon marché, souvent même misérable, et qui imitaient sauvagement le style anglais des Stones, des premiers Kinks ou des Yardbirds. Enfin, si, il y a quelque chose qui distinguait en fait Rocky Erickson et ses camarades de toute cette jeune piétaille. Rocky, vous l'avez entendu, composait, jouait, chantait, même criait le blues bien mieux que la moyenne. Et puis autre chose, l'a mis complètement à part, quelque chose qui explique que le terme de psychédélisme n'a pas été pour lui un courant, un mouvement auquel il s'est greffé, mais une expérience profonde, existentielle, qui a bouleversé sa vie, et vous allez vite en prendre la mesure, pas franchement dans le bon sens. Le destin de Rocky Erickson a complètement changé le jour où il a rencontré un étudiant en chimie, fraîchement diplômé de l'université de Austin au Texas, un certain Tommy Hall. Celui-ci lui parle alors, j'imagine c'était en 65, avec enthousiasme, à lui, à Rocky Erickson et à la bande qu'il fréquente, des expériences qu'organise un certain Ken Kesey, un écrivain californien qui réside dans la région de San Francisco. Vous connaissez peut-être le livre et le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou », ben c'est Kesey qui a écrit le roman, enfin le récit. Il se trouve que Kesey organise des prises collectives de LSD dans sa maison située près de San Jose, au sud de San Francisco. Il faut savoir que dans ces années-là, un programme gouvernemental, dont tout ce qui est de plus officiel, a permis à des chercheurs de l'université avoisinante de Stanford, à Palo Alto, de tester les effets de cette nouvelle substance, donc le LSD, l'acide si vous préférez, sur des étudiants volontaires, des cobayes si vous préférez, dont a fait partie Ken Kesey. Donc tout ça se fait, dans un premier temps, en toute légalité. Alors suivant son exemple, Tommy Hall décide d'entraîner ses potes au Mexique, la frontière est pas tellement loin de Austin à Laredo, la frontière du Nuevo León, c'est un peu moins de 4 heures de route. Et toute cette bande fait quoi? Elle part cueillir des champignons magiques dans le désert. Sauf que Rocky Erickson, à la différence des autres, en absorbera beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et pas seulement des champignons d'ailleurs.
Two-headed dog, I'd be working in the graveyard with a two-headed dog.
On pourrait croire un inédit de Exile on Main Street des Rolling Stones, mais pas du tout, fausse piste. Cette chanson qui s'appelle Don't Shake Me Lucifer est apparue pour la première fois en 1980 dans un album attribué à Rocky Erickson and the Aliens, où se trouve également une autre version réenregistrée d'un de ses titres, on oserait dire classique, mais plutôt un des plus légendaires, Red Temple Prayer, prière du Temple Rouge, entre parenthèses, Two-Headed Dog, chien à deux têtes. Alors pardon pour la piètre qualité du son, je vous dirai pourquoi en deux mots il était important d'entendre ce document sonore. Alors tout ça vous donne l'idée du terrain sur lequel on est transporté. Arrête de me secouer Lucifer, je suis dans un cimetière avec un chien à deux têtes, ça sent le satanisme à plein nez. Alors précisons les choses tout de suite. Pour Rocky Erickson, il s'agissait pas de monstruosité extraite de films d'horreur grotesques brandis avec un grand rire sardonique. Pas du tout. Il croyait vraiment à ces visions atroces qui étaient pour lui une source de torture bien réelle. Ce qui appelle quelques explications. En 1966, son groupe, donc les 13th Floor Elevators, le groupe donc de Rocky Erickson, sont à peine nés que se propage autour d'eux, à Austin, une sulfureuse réputation qui a très tôt fait d'alerter les autorités. Enfin, sulfureuse, l'adjectif est faible. Pour la police de la ville d'Austin, les choses sont claires. Ce groupe abrite une communauté de dangereux drogués. Une rumeur d'ailleurs parfaitement fondée, puisque lors d'une descente, la police va saisir chez eux une importante quantité de marijuana. Erickson et ses camarades se font tous arrêter. C'est encore bénin, on les relâche assez vite. Ils font ensuite le voyage à San Francisco, où ils veulent aller plus loin. C'est vrai, on est psychédélique ou on ne l'est pas. Il leur faut essayer d'autres psychotropes puissants, censés ouvrir la porte, évidemment, à de grands voyages intérieurs et les initier à d'amples révélations sur le sens profond et caché de l'existence. C'était un peu le credo des Doors, un peu l'excuse de tous ceux qui prenaient des drogues à l'époque. Bref, pour être très terre-à-terre, Erickson et ses copains dilapident toutes leurs économies pour acquérir toutes les drogues disponibles. Et il y en a quelques-unes qui commencent à circuler. Mythe ou réalité, difficile à dire, mais le seul Rocky Erickson aurait, paraît-il, absorbé durant cette période 300 pilules de LSD. Sans parler de sa découverte enthousiaste des amphétamines. Ce qui explique en partie la dégradation très rapide de la qualité des concerts des 13th Floor Elevators, qui, selon les témoignages, tourne très vite, il n'y a pas de mystère, à de confondantes cacophonies. Le groupe, qui aura enregistré 3 albums, n'existe déjà plus en 1968. Alors, revenu au Texas, Rocky Erickson est arrêté, ironie du sort, pour avoir détenu une simple cigarette de marijuana. Mais hélas pour lui, la législation s'est considérablement durcie. La police lui donne alors le choix entre la prison, ça il connaît, il n'en veut plus, et l'hôpital psychiatrique. Il choisit le second, très mauvaise pioche. Une décision qui à première vue paraît raisonnable, mais qui s'avérera la pire de sa vie. Rocky Erickson est en effet détenu pas moins de 3 ans dans un établissement de Rusk, c'est-à-dire à l'est du Texas. Et là, on lui fait subir un traitement à base d'électrochocs dont il sortira marqué à jamais. Dans cette prison psychiatrique, à l'époque on disait asile de fous, au moins ça avait au moins le mérite de la franchise, il écrit des poèmes où ressurgissent les récits et images apocalyptiques que lui faisait sa mère, à lui comme à ses frères et sœurs, quand ils étaient enfants. Des récits effrayants parce que la mère s'est convertie à une secte chrétienne puritaine et fanatique, et elle élève ses enfants, le père un architecte alcoolique et dépressif n'est guère présent, en les menaçant des flammes de l'enfer et de 1000 tourments et tortures administrées par des démons sortis tout droit des peintures de Jérôme Bosch. D'où le chien à deux têtes et toutes ces images abominables qui hantent et qui effraient, enfin, le malheureux Rocky Erickson. Ce titre, Two-Headed Dog, que vous avez entendu, attribué à Rocky Erickson and Bleeb Alien, a été enregistré en 75 grâce à l'aide d'un ami musicien. Vous en avez senti la férocité et l'authenticité. C'est à la fois une intuition de ce que va être le punk rock américain, on peut penser à un groupe comme Père Ubu, et en même temps, c'est un document psychiatrique. Pour vous donner une idée de ce que Erickson a pu vivre et subir, il faut savoir que, encouragé par un médecin à poursuivre la musique dans les murs de la prison, il a formé un groupe avec un bassiste interné. Interné pourquoi ? Parce qu'il avait violé et tué 2 enfants, et également un guitariste qui, lui, avait carrément assassiné toute sa famille. Bon, pour autant, il ne faut pas oublier qu'avant tous ces épisodes effrayants, eh bien, le premier album des 13th Floor Elevators, enregistré en 1966, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, a été à la pointe de l'innovation sonore et musicale de ces années-là. La preuve, ce titre, Roller Coaster, repris par quantité de musiciens fascinés par le rock psychédélique naissant et ce musicien pas comme les autres.
Yeah. vos tripes sur France Inter.
Reverberation, une reprise d'un titre créé en 1966 par les 13th Floor Elevators de Rocky Erickson avec ses comparses Stacy Sutherland et puis sans oublier Tommy Hall, le chimiste, vous l'avez entendu, qui soufflait en rythme dans une cruche en terre pour accompagner le groupe. La reprise que vous venez d'entendre a été faite bien des années plus tard, en 1990, pour un album d'hommage par le groupe écossais The Jesus and Mary Chain, les frères Jim et William Reid. Oui, un album d'hommage, comme on dit, ça existait déjà, au 13th Floor Elevators, intitulé Where the Pyramid Meets the Eye. On y trouve des chanteurs et des groupes un peu oubliés aujourd'hui. Il y a Primal Scream de l'écossais Bobby Gillespie. Il y a aussi Richard Lloyd, qui était le second guitariste du groupe new-yorkais Television, après Tom Verlaine, qui reprenait d'ailleurs très souvent sur scène Television le titre Fire Engine. On l'entendra tout à l'heure sous sa version d'origine. Alors il y a pas mal de compatriotes texans de Rocky Erickson qui ont participé à cet album d'hommage donc, et ça m'a surpris. Il y a aussi ZZ Top qui reprend aussi remarquablement d'ailleurs le même titre qu'on vient d'entendre, Reverberation. Alors on avait laissé Rocky Erickson, en 1972, à sa sortie de sa prison psychiatrique, gravement altérée par les électrochocs. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tente, le malheureux, de remettre son groupe sur pied, mais Tommy Hall, qui est resté terré 2 ans dans une grotte avec une secte de drogués au LSD, ça ne s'invente pas, s'est installé à San Francisco. Et quant à Stacy Sutherland, devenu héroïnomane après avoir passé des années en prison, il est très malade, et d'ailleurs il mourra dans des circonstances épouvantables, assassiné en 1978 par sa propre femme. Erickson publie un recueil de poèmes, Openers, des poèmes écrits donc pendant son séjour chez les fous, et en 75, il crée un nouveau groupe, Bleeb Alien, avec lequel, aidé par son ami texan Doug Sam, il a enregistré entre autres l'étonnant Two-Headed Dog, que vous avez entendu, et alors sa santé mentale est alors gravement endommagée, c'est franchement une litote. Il a déposé devant notaire le texte suivant. Je sous-signais Roger Kennard, ces deux prénoms d'état civil, leur contraction donnant Rocky, donc Roger Kennard Erickson, déclare ici ne pas faire partie de l'espèce humaine, mais être en réalité un extraterrestre, originaire d'une planète autre que la Terre. J'espère que cela prouvera bien à la personne qui m'a administré des électrochocs que je suis un extraterrestre. Je fais cette déclaration afin de prouver que je ne me livre à aucune violation des lois mondiales ou internationales de la Terre, puisque je reconnais en réalité être un extraterrestre.
Last
la voix de Rocky Erickson à l'âge de 19 ans, en 66, dans Splash One, une chanson qui figure dans le légendaire premier album de son groupe, les 13th Floor Elevators, et dont le style paisible et mélodieux évoque plutôt le groupe de Los Angeles Love, dont le fondateur Arthur Lee, également très intoxiqué par les drogues psychédéliques qu'il avait absorbées, a lui aussi dû faire des séjours dans des prisons psychiatriques ou non. D'ailleurs, Arthur Lee nous a quittés il y a 13 ans déjà, en 2006. Quant à Rocky Erickson, eh bien le fondateur des 13th Floor Elevators, auquel nous consacrons ce Very Good Trip spécial ce soir, eh bien on vient d'apprendre, je vous le rappelle, sa mort à l'âge de 71 ans. Alors si vous êtes intrigué par le destin hors du commun de Rocky Erickson, je vous recommande la vision d'un documentaire captivant sur sa vie qui s'appelle You're Gonna Miss Me, réalisé en 2005. On voit Rocky Erickson, âgé de plus de 50 ans, chevelu et barbu, vivant dans le Capharnaüm, qu'est la maison de sa vieille mère, toujours en vie, qui lui administre un traitement médicamenteux de son choix et le maintient dans une sorte d'irresponsabilité. Pendant ce temps-là, le frère cadet de Rocky, joueur de tuba à l'orchestre symphonique de Pittsburgh, en Pennsylvanie, se bat pour l'arracher des griffes de cette mère folle et abusive. C'est à la fois triste et au fond assez exaltant aussi, parce que Sumner, le frère, arrive au bout du compte à ses fins. Il installe Rocky chez lui, au sein de sa propre famille, et puis peu à peu, eh bien, celui-ci arrive à remonter la pente et à redevenir chanteur et musicien, ce que personne aurait pu imaginer. Fire Engine, un classique des 13th Floor Elevators en 66, souvent repris par le groupe des New Yorkais Tom Verlaine et Richard Lloyd Television. Don't slander me, me calomnie pas, maman. Un titre chanté avec fougue par Rocky Erickson, ça sonne un peu comme The Creedence Clearwater Revival, enregistré on ne sait pas exactement quand, mais diffusé en 1984 par l'étiquette française New Rose, qu'avaient créé les Parisiens Patrick Maté et Louis Thévenon. Patrick Maté, bah, je salue au passage sa mémoire, on a appris sa mort il n'y a pas longtemps. Je voyais en ce temps-là, d'ailleurs toutes les semaines, dans son magasin de disques de la rue Pierre Sarrazin, près de l'Odéon, New Rose, où j'allais tous les samedis, le cœur battant, pour acheter mon journal anglais, le New Musical Express, à NME, acheter les 45 tours de nouveaux groupes excitants comme The Jesus and Mary Chain ou les Smiths, qui n'étaient pas trop du goût de Patrick Maté, un type faussement bourru mais adorable, qui ressemblait un peu à Georges Brassens avec ses chemises de bûcheron à gros carreaux, qui lui était plutôt porté sur le blues et le rock'n'roll de Boston. Il vouait un culte à ces Américains maudits, comme justement Rocky Erickson, qui n'intéressait qu'une poignée de fanatiques aux États-Unis et en Europe. Faut dire qu'Erickson fascinait une certaine amicale rock'n'rollienne occulte. Ça avait commencé par le havrais d'origine Philippe Garnier, éminent journaliste et critique, passionné aussi par le dessous des cartes du cinéma américain. Philippe Garnier avait vécu avec courage le rêve américain, il s'était installé à Los Angeles, ça faisait rêver nombre d'entre nous, et puis de là il envoyait des correspondances de très longs articles à Rock et Folk et à Libération. Et bien Philippe avait cassé sa tirelire pour créer un label qui s'appelait Sponge, qui avait diffusé des inédits de Rocky Erickson, et puis ça avait continué dans son sillage, des fanatiques traquaient Erickson partout. Ils cherchaient des bandes, ils enregistraient sur mini-cassettes ces concerts qui devenaient des disques pirates au son pourri que les dévots s'échangeaient. Un autre illustre texan, Buddy Holly, mort très prématurément en 1959, le créateur du rock'n'roll mélodieux, grand inspirateur des Beatles, a beaucoup inspiré Rocky Erickson, comme en témoigne cette chanson, Starry Eyes, une de ses plus belles, ici interprétée en duo avec sa compatriote texane, Lou Ann Barton.
Meet me too alone in the dark.
Starry Eyes, Rocky Erickson en duo avec Lou Ann Barton. Alors, comme je vous disais, il y a eu un post-scriptum heureux à l'existence maudite de ce chanteur. Il a redonné des concerts à partir du milieu des années 2000 et même parvenu à enregistrer un nouvel album. Son jeune compatriote texan, Will Sheff, de l'âge d'être son fils, lui aussi un résident d'Austin, a supervisé un album de retour très inattendu signé Rocky Erickson, publié en 2010 sous le très beau titre de True Love Cast Out All Evil, l'amour véritable a chassé tout le mal. Bien trouvé.
My baby darling, I got to go. I got to make it on the road. I've got to carry my given load. And it's cold outside and the wind does blow. Electricity hammered me through my head till nothing at all is backward instead. But it does not die, no one dies again. And may he live, blow the wind. You'll find someone who you will love. You'll trust him too, you'll place each other above. You won't need me then, and the times we've had. Now don't look back, ain't blues too sad.
Ain't Blues Too Sad, voilà un ultime salut au Texan Rocky Erickson, fondateur des 13 Floor Elevators. Il me paraissait indispensable de lui rendre hommage, Rocky Erickson, auquel on souhaite un ultime très bon voyage. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Florent Beauvallet à la technique, Zora Ben Smiley et Romain Couturier. Tout de suite après les informations, ce sera Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Il recevra Gilles Peterson, animateur de la BBC, pour le Worldwide Festival à 7 et Thomas de Pourquerie pour le Festival Hard Rock à Saint-Brieuc.